Voilà, j'aimerais pour ce dernier enseignement de la retraite évoquer avec vous la question de l'engagement. La question de l'engagement parce que, comme nous l'avons vu dans la retraite, le discernement vise l'action. Et qui dit l'action dit d'une manière ou d'une autre un choix et donc un engagement, plus ou moins sur le long terme, tout dépend de l'objet du discernement, et de méditer sur, au fond, cet engagement, de voir aussi qu'est-ce que ça veut dire, bon, par rapport aux priorités, mais aussi quelles sont aussi nos peurs, comment les surmonter, etc., etc. Premièrement, pourquoi un engagement ? Quand je dis engagement, c'est au sens très large. Ça peut être l'engagement dans un état de vie, donc de façon plus durable. Ça peut être un engagement dans une association, dans une vie professionnelle, dans une vie amicale, etc. Pourquoi de se dire, voilà, je suis engagé dans cette relation, je suis engagé dans cette circonstance. Premièrement, parce que c'est l'occasion de se donner et de recevoir l'engagement. Au fond, comment est-ce que l'on se donne, si ce n'est en choisissant et en choisissant de s'impliquer, à l'intérieur même de notre vie. Et les implications, chaque fois qu'on a été moteur, acteur de notre vie, parce que ce qui serait l'inverse de l'engagement, c'est une certaine passivité et donc d'être aussi nous-mêmes, de vivre par procuration d'une manière ou d'une autre, et de subir notre vie, ce serait l'autre facette de l'engagement. Eh bien, voilà, le fait de s'engager, c'est être acteur, c'est être moteur dans sa vie, que ce soit sa vie spirituelle, être acteur dans sa vie spirituelle, acteur dans sa vie professionnelle, sentimentale, amicale, familiale, sociale en général. Donc, c'est un lieu où on se donne. On a dit ce matin, l'importance, la maturité, c'est rentrer dans une logique de don. Hein, dans une logique de don, mais dans une logique de don après aussi avoir reçu. C'est-à-dire, le don, c'est un moteur à deux temps, pour ainsi dire. Il y a d'abord recevoir et ensuite donner. Et savoir quoi donner. Mais en même temps, quand je vous regarde et j'ai parlé avec les uns et les autres, je trouve que vous n'êtes pas sans rien en termes de capacité de don, et que vous avez des grands désirs qui habitent votre cœur. Mais voilà, l'engagement, ça nous permet d'avoir un lieu concret où nous donner et exprimer aussi ce que nous sommes. Et puis de recevoir. On le sait bien que lorsqu'on donne, on reçoit parfois bien davantage, je pense dans la dimension associative, mais aussi dans la dimension amicale. C'est une respiration à deux poumons, hein, l'engagement de ce point de vue-là. Quelqu'un qui serait toujours dans le don, on voit des personnes comme ça qui sont toujours dans le don, mais elles-mêmes, quand on leur propose par exemple notre aide, non, ça va, je me débrouille tout seul ou toute seule. Voilà, quelque part, elles n'arrivent pas non plus à recevoir ni à solliciter l'aide ou le soutien de personnes auxquelles elles se donnent. Et ça, je pense que de ce point de vue-là, c'est un engagement, mais qui est un peu bancal. Il n'est pas sur les deux pieds, il est sur un seul pied. Parce que dans l'engagement, il y a aussi laisser la possibilité à l'autre de se donner à moi. De se donner dans l'amitié, de se donner dans l'amour, de se donner dans la vie associative, etc. De toutes les formes possibles qui ne sont pas mettre sur le même point, on est d'accord. Mais est-ce que, du coup, se poser la question... Est-ce qu'au fond, parfois, les blocages liés à l'engagement, c'est aussi non seulement des difficultés à se donner, mais aussi des difficultés à recevoir de l'autre? Parce que je crois, pourquoi est-ce qu'on a de la difficulté à recevoir de l'autre? Parce qu'au fond, je crois être assez autonome et je me débrouille très bien sans l'autre. Ce qui est peut-être vrai. Mais j'aime bien cette phrase de Chiara Lubich, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Chiara Lubich. Cette fondatrice d'un mouvement italien, mais qui a essaimé dans le monde entier, qui s'appelle les Focolari. Focolari, et donc, c'est des laïcs consacrés, puis il y a beaucoup de laïcs dans ce mouvement, etc., mais ça n'a pas tellement pris en France. Et elle dit, mieux vaut faire part, c'est une phrase qui est difficile à vivre, surtout quand on est un peu perfectionniste, Mieux vaut faire les choses imparfaitement à deux que parfaitement seul. Ça, c'est le genre de phrase qui tue. Mieux vaut faire les choses imparfaitement à deux, mieux vaut aussi accepter l'aide de l'autre pour qui peut-être sait moins bien faire, qui peut-être a moins de capacité ou fait autrement. Parce que le fait d'accepter l'aide de l'autre, c'est aussi accepter de lui laisser une chance de se donner et valoriser son don et valoriser ce qu'il a à l'intérieur. Donc je crois que c'est intéressant de pouvoir vraiment soi-même découvrir ça et rester vraiment dans une attitude de confiance par rapport à ça, de dire voilà où est-ce que j'en suis de ma capacité de me donner et de ma capacité aussi de recevoir. Un autre point pourquoi s'engager, c'est parce que on a une petite maladie en France, c'est qu'on est très cérébraux. On est très cérébraux, très, on dit cartésien, c'est très au niveau de la tête, on pense beaucoup, ça chauffe formidablement. Mais quels sont les lieux où découvrir les autres aspects de notre personnalité? Et l'engagement permet précisément de aussi élargir le cœur, permet de découvrir aussi notre dimension affective, sensible, artistique, sportive, que sais-je. Et je trouve que dans l'engagement que l'on peut en est amené à prendre, eh bien, il y a ces aspects-là qui, d'une certaine manière, de passer aussi de la tête au cœur et de découvrir que j'ai peut-être un cerveau qui fonctionne plutôt bien ou pas, ça dépend les uns et les autres, mais en tout cas, j'ai aussi d'autres capacités que les capacités cérébrales, j'ai une capacité d'aimer, parce que l'engagement, il est dans la volonté, c'est un acte de la volonté. Hein, et la volonté, c'est le siège de l'amour. Hein, aimer, c'est vouloir. Et de fait, si un jour... et vouloir, c'est aimer. Et donc, si un jour, vous êtes devant monsieur le curé pour célébrer vos noces, il ne vous demandera pas « Est-ce que vous vous aimez ?» Il vous dira « Est-ce que vous voulez ?» « Est-ce que vous voulez prendre pour femme ? Est-ce que vous voulez prendre pour mari ?» « Oui, je le veux. » Ou non, je ne le veux pas. Alors c'est vrai que ça crée une petite tension. Quand ça m'est encore jamais arrivé, mais je ne parlerai pas là, parce que là, je ne saurais pas du tout quoi faire. Tu as déjà l'Eucharistie qui est déjà à moitié commencé. Tu as les starting blocks, c'est un bon. Bon, bref, ça c'est des cauchemars. Je me réveille la nuit et qu'est-ce qui m'arriverait s'ils disent non. Mais bon, c'est parfois le dernier rempart pour ça et pour la liberté aussi. Donc bon. Voilà, donc c'est le lieu du développement de notre capacité d'aimer, l'engagement, et je trouve que c'est intéressant de ce point de vue-là, parce que, là, comme je disais ce matin, la question de le lieu d'appartenance dans la communauté chrétienne, quels sont vos lieux où vous développez vos capacités d'aimer? Et précisément, c'est vos capacités de vous donner, c'est-à-dire vous engager et de recevoir de l'autre. Tout ça, c'est synonyme, mais bon, ça éclaire un peu d'un angle un petit peu différent. Ça permet aussi de mûrir autant spirituellement que humainement l'engagement, parce que ça me permet d'exercer ma liberté et de me décentrer de moi-même. Hein, c'est Saint Paul qui dit « Nul ne vit pour soi-même, si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, si nous mourons pour le Seigneur ». La vie chrétienne est un décentrement de soi-même, ne pas mettre son centre en soi, hein, mais au fond de mettre son centre en l'autre avec un grand A ou un petit A, et je trouve que l'engagement permet justement ce décentrement et cet exercice de la liberté. Mais en même temps, certains diraient « mais non, ça nous prive de liberté, précisément ». Et on voit que la réalité ambiante, le monde ambiant, plutôt, nous appelle à nous dire non, surtout pas d'engagement, même si c'est pour un an ou c'est ça. Non, surtout zéro engagement, parce que ça te prive de ta liberté, ensuite tu es prisonnier. Et on présente, en tout cas certains présentent le mariage comme le comble de la prison, parce que précisément, voilà, c'est de monsieur devant de monsieur le curé, indissoluble et compagnie, etc. Alors que c'est tout l'inverse. Alors qu'au fond, l'engagement, c'est une capacité d'exercer ma liberté. Ma liberté, c'est une liberté pour. C'est pas une liberté en soi indéterminée. C'est pas une liberté qui a quelque part de tous les champs des possibles devant elle et qui ne s'exercerait pas en choisissant un de ces possibles. Et donc, au contraire, plus je m'engage, plus je suis libre. Plus je m'engage, plus j'exerce ma capacité de choix, et donc que me permet la liberté. C'est ça la liberté, c'est une capacité de choix et de choisir le bien. Donc c'est intéressant de voir qu'au fond, que ça me m'aide à mûrir au plan de ma vie humaine, hein, mais aussi et donc aussi ça m'aide de ce fait-là dans ma capacité à être heureux. Ça va avec le bonheur. Au fond, bien souvent, on a une forme de tristesse en nous-mêmes. Forme de parce que on n'a pas de lieu où se donner, où on a le sentiment que personne ne veut de ce que j'aimerais donner, personne ne le veut. Il y en a qui ont ce sentiment là et qui disent mais oui, moi j'ai tellement de choses à donner mais je trouve pas de lieu où donner ça, hein. Et parce que derrière ça il y a la quête du bonheur, et donc le fait que l'engagement en tout cas est une des clés pour atteindre le bonheur, parce que ça permet précisément d'avoir un lieu où on voit la fécondité de sa vie. Et donc, du coup, c'est intéressant de découvrir que nous sommes nous-mêmes impliqués dans ce choix, et être heureux, ça se décide. Être heureux, ça se décide. C'est un choix. C'est un choix. Moi, j'aime bien, je ne me rappelle plus de qui était la phrase, mais « ne rentre au ciel que ceux qui y sont déjà », c'est-à-dire ceux qui vivent déjà dans cette joie et dans... quelque part, après la mort, cette même joie les habitera, mais bien sûr plénifiée et magnifiée, mais précisément parce que ils ont fait aussi quelque chose la décision de d'être heureux, quoi. Et de je trouve il y a un carpe diem chrétien. Vous savez ce que c'est le carpe diem? Carpe diem, c'est cueillir le jour. Hein, ça faisait partie de la sagesse des stoïques. Hein, mais donc le carpe diem chrétien, c'est-à-dire c'est une manière de cueillir le jour et de découvrir dans la journée quelles sont les sources d'action de grâce, quelles sont les sources de louange, quelles sont les choses. Et nous avons pléthore d'occasions. C'est-à-dire nous sommes parmi les quelques pourcentages les plus privilégiés sur la planète. Et je ne parle pas que de la question matérielle, je veux dire la question intellectuelle, la question affective, l'environnement, etc., etc. Je veux dire, et pourtant, parfois, nous laissons aller à la tristesse, et nous laissons aller à la... Parce que, justement, il n'y a peut-être pas une décision profondément d'être heureux. Et là, l'engagement, je trouve, ça, c'est une des clés. C'est pas la seule, mais c'est une des clés qui nous permet d'être heureux aussi. Parce que c'est une des clés où je me découvre à moi-même qui je suis. Donc ça, c'est premier point, pourquoi un engagement en général. Deuxième point, qu'est-ce qu'un engagement? Qu'est-ce qu'un engagement? Je dirais d'abord, c'est une activité de l'intelligence. C'est une activité de l'intelligence, c'est donc l'importance du discernement, parce qu'il vous est proposé plusieurs, on vous sollicite peut-être beaucoup, et vous êtes de cette génération, je suppose qu'on... Dès que vous mettez un petit peu les pieds dans la vie associative, dans la vie d'église, etc., etc., les sollicitations commencent à pleuvoir et qu'on voit que voilà, vous tenez la route, vous avez des capacités. Du coup, voilà, on vous tombe un peu. Bon, il y a un discernement à faire dans l'engagement. Suis-je capable de l'assumer? Ai-je les aptitudes? Ai-je le temps? Quoi donner et qui donner et à qui donner? Ça va pas trop vite, c'est bon? Quoi donner et à qui donner? Donc tout ça, c'est l'activité de l'intelligence. Dans l'engagement, il y a l'intelligence qui travaille et qui permet justement de découvrir que nous sommes appelés à un don, mais nous ne sommes pas appelés à tous les dons et nous ne sommes pas appelés à donner de la même manière, ni à donner de la même manière avec la même intensité. Mais tout ça, c'est l'activité de l'intelligence, hein, donc qui nous permet de voir clair et qui et du coup, attention aussi à la dispersion dans nos engagements. Hein, qui trop embrasse manque le train, comme dirait l'autre. Donc du coup, ça, tu la connaissais pas celle-là, Paul. Hein. Voilà, mais bienvenue. Donc du coup, et donc du coup, c'est vrai que à trop prendre d'engagement, comme ça, j'accompagne ça une jeune fille, etc.
quand mes bras m'en sont tombés, quand j'ai vu la quantité d'engagement, en plus c'était catho, surtout à Paris, vous pouvez avoir un truc tous les soirs, je veux dire, ça, il n'y a aucun souci, tous les soirs, vous pouvez être occupé par des choses tout à fait pieuses, etc. Mais est-ce que c'est ça qui convient? Quelle est la part aussi de vie cachée? Quelle est la part de vie plus contemplative dans, et jouez-vous particulièrement comme jeunes professionnels, jeunes actifs? Je crois que la question se pose très clairement. Qui dit l'engagement dit aussi le rapport au temps. Dit le rapport au temps dans le sens où dit quel est. Moi, je vois des gens qui veulent faire rentrer dans 24 heures plus que 24 heures. Donc, du coup, ils bourrent à fond. Ça n'arrête pas. Donc, un rapport au temps qui n'est pas du tout équilibré. Et donc, forcément, si on ne laisse pas, si c'est à touche-touche, etc., soit on arrive systématiquement en retard, et donc, du coup, c'est les autres qui payent, entre guillemets, notre bonne organisation. Et notre, derrière ça, c'est la peur de l'agenda vide, vous voyez ? La peur de l'agenda vide. Mais ça fait partie aussi de l'engagement, de dire, mais est-ce que j'accepte d'être simplement chez moi, sans forcément 1000 propositions, etc. Quelle place je laisse au contretemps? Est-ce que mon agenda est complètement à touche-touche, qui fait que dès qu'il y a un grain de sable dans la mécanique, que ce soit le transport en commun qui est en retard, ma voiture qui tombe en panne, que ce soit un autre ami avec qui j'ai rendez-vous qui lui-même est en retard et du coup, etc. Bon, ça. Quelle est la place, voilà. Donc c'est intéressant de mettre des priorités dans nos engagements et de voir qu'est-ce qui peut être incompatible. D'où l'importance, on l'a déjà évoqué plein de fois, de se faire conseiller, de se prendre le temps de délibération, ce qu'on a vu largement avec la vertu de prudence, avant de passer à l'action. Donc de voir ces différentes étapes de prise d'action. C'est une activité de l'intelligence, mais c'est aussi une activité de la volonté. S'engager est le fruit d'une volonté qui se met en mouvement. Et on découvre une volonté par les actes qu'elle pose. Le fait de venir à la retraite, c'est une volonté qui s'est mise en mouvement. Il a bien fallu que vous vous inscriviez, vous remplissiez le formulaire, que vous preniez un transport pour arriver ici, etc., etc. Donc tout ça, c'est le signe d'une volonté qui se met en mouvement, c'est-à-dire, et donc du coup, d'une liberté qui se met en mouvement. Donc chaque engagement, d'une manière ou d'une autre, augmente ma liberté et en même temps développe en moi cette capacité d'aimer en donnant et en recevant. Donc c'est intéressant de voir que à la fois l'intelligence et la volonté, qui sont les deux facultés spirituelles en nous, qui fait aussi qu'on est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Est différent des animaux, même si notre chien Toby est tout à fait intelligent, il lui manque que la parole, mais il n'est pas de même nature que nous. Hein. Bon, nous avons aussi la ponette, etc. Bon, ben ça met tout ça. On a beau dialoguer, il y a peu d'écho. Donc du coup, il y a des frères qui parlent, mais ils ont. Bon, ça c'est un autre cas encore. Mais bon. Les transferts affectifs. Il va falloir que je coupe l'enregistrement parce qu'on se fait. Donc voilà. Donc toujours est-il qu'il peut être intéressant de voir justement notre capacité d'aimer. Elle est là. Quand on se dit mais comment grandir dans l'amour? Comment grandir dans l'amour? Bah oui, c'est ça la vraie question de notre vie. Parce que quel que soit notre état de vie, c'est en prenant des décisions, c'est en s'engageant. C'est ça grandir dans l'amour. Si je vis par procuration et que je me laisse conduire tel le bout de bois au fil de l'eau, voilà qui va et puis va de droite, de gauche, et c'est les autres qui décident pour moi. C'est pas une vie, ça. À la fin, on se dit, mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais? Quel est le sens à ma vie? Etc. Alors que, au fur et à mesure d'engagement, je trouve, au contraire, ça donne à la fois une fécondité et à la fois un sens et ça développe le cœur dans sa capacité d'aimer. Et ça développe aussi des tas d'autres choses que l'engagement particulier, que ce soit associatif, professionnel ou affectif ou ecclésial, permet. Donc, qui est connexe à ça. Ça développe mon humanité. Et ce qui est intéressant, un dernier point, donc qu'est-ce qu'un engagement? C'est l'activité de l'intelligence, ensuite c'est l'activité de la volonté. L'engagement, en fait, c'est nous permet de développer toute notre personne humaine. Toute la personne humaine, dans sa sensibilité, son corps, ses dons naturels, spirituels, que je mets au service des autres. Donc c'est la dimension de service. Et c'est pas simplement l'intelligence et la volonté, c'est sûr que c'est ça qui met en mouvement, mais ensuite dans le concret, c'est la personne entière hein, qui se donne. Et donc du coup, c'est intéressant de voir que, au fond, cet engagement-là va me permettre de développer un certain nombre d'aspects dans ma vie que j'avais peut-être pas vu jusque-là. Voilà. Ensuite, les difficultés dans l'engagement. Premièrement, la peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, la peur d'être infidèle. Donc, des peurs. La peur de ne pas y arriver. Je crois que c'est hier, la question du velléitaire. Le velléitaire, c'est celui justement qui, je vais faire ça, il procrastine, vous savez ce que ça veut dire procrastiner, c'est-à-dire il remet au lendemain. Je vais chercher demain, je vais le faire. Mais jamais il passe à l'action. Pourquoi? C'est intéressant qu'on a une attitude comme ça. Pourquoi est-ce qu'il passe jamais à l'action? Parfois, ça peut être justement, il a peur de ne pas y arriver, il a peur de. C'est un manque de confiance en soi qui peut engendrer ça, ou de ne pas se sentir à la hauteur, de dire, mais de toute façon, au fond, du coup, on se donne des excuses. On se donne des excuses et on passe à côté d'une capacité d'amour qui aurait pu être développée tranquillement. Ensuite, la peur de l'échec. La peur de l'échec. Là, on est plutôt dans un autre registre. C'est celui qui ne s'engage que s'il sait qu'il réussit et qu'il réussira jusqu'au bout. Il y a peu de choses, somme toute, c'est-à-dire que commencez par votre vie professionnelle, vous êtes engagé par contrat avec votre employeur, vous savez pas du tout est-ce que vous allez réussir, etc. Il y a peu de choses dont on peut dire de façon certaine qu'on va y réussir. Et donc l'échec reste toujours une possibilité. L'échec dans la relation amoureuse, l'échec dans la relation professionnelle, l'échec dans la relation amicale. Et je pense que la peur de l'échec paralyse certains. Parce que ils se dévaloriseraient, c'est quelque part un manque d'humilité, un manque, voilà. Ça a à voir un petit peu avec ça. Ou alors, un autre point, ça peut être la peur de la difficulté. Dans tout engagement, il y a forcément des aspects difficiles. Quel que soit, dès qu'on commence à s'engager, d'autant plus si c'est dans une dimension spirituelle, chrétienne, etc., forcément, il y aura des aspects difficiles, il y aura des tensions. Il n'y a qu'au cimetière qu'on est complètement détendu. Mais, voilà, c'est bien, il fallait rire, ils ont ri, c'est bien. Donc, vous n'êtes pas complètement à out. mais voilà, c'est là qu'on est vraiment détendu. Mais en dehors de ça, je suis désolé, dans la vraie vie, il y a des tensions partout. Si vous attendez un lieu sans aucune tension pour vous engager, aucune difficulté, aucune adversité, aucune épreuve, c'est de l'illusion la pure et dure. Et du coup, vous donnez des raisons en fait de ne pas vous engager, tout simplement parce que vous avez peur de souffrir. Et c'est vrai que dans le choix, la décision que l'on prend, il y a toujours une part de souffrance possible. Et de fermer la porte à la souffrance, parfois, ferme aussi la porte à la fécondité de nos vies. Le pape Benoît XVI a écrit un très beau texte sur l'espérance. Et il dit, on pourrait peut-être évacuer toute souffrance de sa vie. Peut-être, éventuellement, ce serait peut-être possible. Se protéger de toutes parts, mettre des murailles partout. Pour surtout ne pas être atteint, surtout ne pas être blessé. Mais on arriverait aussi à une vie sans sens. Et la vie de ces personnes-là n'aurait pas un sens, parce que quelque part, Et on le voit parfois dans des grands témoignages de personnes qui ont eu à franchir des difficultés, des épreuves, et qui à la fois sont dans la joie et à la fois sont dans une fécondité de vie et un rayonnement qui est magnifique. Et je trouve donc du coup le fait, la peur de souffrir, c'est une peur forte chez nous, hein, parce que c'est vrai qu'on n'est pas fait pour la souffrance. Mais de se fermer, de fermer d'office cette porte-là, et donc dès qu'on perçoit une tension, une souffrance possible, tac, on passe de côté, eh bien, il est clair que ça ne vous aidera pas dans votre vie future et dans des discernements. Autre peur, la peur de se révéler. Parce qu'évidemment, lorsque je m'engage, je me donne, et quand je me donne, je me découvre, je suis visible, hein, et je permets aux autres aussi de me révéler de différentes manières. Hein. Donc des personnes justement qui préfèrent rester tout à fait cachées parce qu'elles ont peur de se révéler, mais alors, c'est pas forcément de la timidité. Alors, oui, ça peut être un peu de la timidité parfois, mais pas seulement. C'est intéressant d'où vient la timidité. La timidité, ça vient bien souvent de quelque chose de précieux que l'on a dans son cœur, mais aussi que l'on a du mal à montrer à l'autre parce qu'on ne sait pas trop ce que l'autre va pouvoir en faire. Et on voit bien que des personnes, c'est vrai que quand on s'engage dans une relation amoureuse, quand on s'engage dans quelque chose qui est assez impliquant dans notre vie, eh bien on se découvre, on est à découvert, on est vulnérable. Et donc du coup cette vulnérabilité, parfois nous fait peur, donc on préfère ne pas rentrer là-dedans. Mais aussi, bon, ça implique ne pas rentrer dans une fécondité et rentrer au contraire dans une solitude. Donc la peur de se révéler est un obstacle. La peur de la vulnérabilité, je l'ai dit, donc de pas tout contrôler. Hein, ça, je m'étends pas. Ensuite, les peurs liées au corps. Mine de rien, les peurs liées au corps, je veux dire, plus avance l'âge, plus les peurs liées au corps sont fortes et sont des obstacles dans l'engagement. Parce que c'est la peur de la fatigue, la peur du froid, de la faim, du manque de sommeil, de l'inconfort, de ceci, de cela. Hein, les peurs liées au corps qui, au fond, sont autant d'obstacles. La peur de souffrir dans son corps, parce que ça me demande de me dépasser, ça me demande, peut-être dans une certaine, de quitter mon lit douillet, de quitter mes habitudes un peu de cocooning que j'avais, etc., pour aller dans un lieu où je ne connais pas, et d'accord. Donc, autre peur, la peur du regard des autres, qui fait écho aussi à la peur de se révéler, qui empêche notre engagement. Qui empêche notre engagement. Donc c'est intéressant de voir que, au fond, une perspective d'engagement, ce sera aussi de se libérer du regard des autres. Je suis ce que je suis sous le regard de Dieu. Je suis pas ce que je suis sous le regard de mes parents ou de mes proches amis ou de mon fiancé ou de quoi qu'est-ce. Hein? Donc du coup, je crois que c'est important de nous-mêmes d'arriver à une liberté intérieure. On a vu dans le combat spirituel, hein, la combat spirituelle vise à une liberté intérieure qui permet à la volonté, et donc qui permet à la volonté d'agir. Sinon, s'il n'y a pas cette liberté intérieure, on est prisonnier de nous-mêmes. Alors, on accuse les autres, et on accuse les circonstances, pour se dédouaner et s'auto-justifier, mais c'est pas la réalité. La réalité vient d'abord d'un combat intérieur, peut-être que nous n'avons pas encore mené ou en tout cas pas encore gagné avec le Seigneur, et voilà, et qui nous fait nous rester un peu en retrait, en surplomb, et parce que j'ai peur du regard des autres, j'ai peur de me montrer. Bon. Et puis je vous en ai parlé, je vais pas non plus développé outre mesure, mais la peur de renoncer à l'éventail des possibles. Ça, mine de rien, c'est pas rien. Dans votre situation où vous n'avez pas une situation d'état de vie stabilisé, J'entends des tas de vies, vie religieuse ou de vie sacerdotale ou matrimoniale. Comme vous n'avez pas un choix, du coup, il y a tous les possibles qui sont devant vous, et il y a une certaine jouissance à avoir tous les possibles devant soi. Et s'engager, forcément, c'est de dire oui à un possible et non aux autres. Choisir, c'est renoncer. Et donc, le fait de ne pas vouloir, c'est le coup du rond-point, je suis dans un rond-point, je tourne, hein, ben oui, j'ai 1000 sorties possibles, et ça c'est une joie, c'est une jouissance, mais finalement, j'en prends aucune, alors que je vois que certains qui ont pris une sortie et sont loin devant et ont tracé leur chemin. Réponse à ces difficultés. Autre partie. Il y a deux réponses. Bon, il y a peut-être plein d'autres, vous en donnerez d'autres, mais bon. Premièrement, la confiance. Deuxièmement, la miséricorde. Premièrement, la confiance. Je ne m'engage pas parce que je suis sûr d'y arriver, mais pour y arriver. C'est tout à fait différent. Et donc, ça veut dire apprendre aussi à compter sur le Seigneur, main dans la main. C'est tout engagement, même si c'est un engagement strictement profane, dans une association non catholique ou voilà de profane, ou association sportive, un engagement que, c'est aussi, je le confie, je le remets. Et d'autant plus que si je découvre que j'ai une personnalité anxieuse, angoissée, à tout remettre en question, à sans cesse remettre les choses en réflexion. Donc du coup, non, je crois que c'est au contraire, c'est cette confiance qui permettra de et on fait jamais l'économie de la confiance. Celui qui fait l'économie de la confiance fait l'économie du bonheur et de la fécondité dans sa vie et du rayonnement de sa vie. Ça, c'est tout à fait clair. Foi et confiance, c'est la même chose. Avoir foi, c'est faire confiance. Et on sait bien que c'est là où c'est souvent attaqué. On est souvent attaqué dans notre confiance. Confiance en nous, dans l'autre, en Dieu, quelle qu'elle soit, mais on est souvent attaqué dans cette confiance. Et c'est quelque chose à toujours rechoisir, parce que, d'autant plus que si on a eu des mauvaises expériences, d'autant plus si on a eu des revers ou des difficultés, ben voilà, on peut très vite se décourager, baisser les bras, alors qu'il suffit tout simplement, entre guillemets, de repartir dans la confiance, quoi. Moi, je crois qu'une bonne éducation, je parle beaucoup aux parents, etc., dans tout ce qui est la famille, mais une bonne éducation, c'est transmettre une capacité, justement, de confiance. Je crois que c'est là, si vous avez ça dans votre vie, ben dites donc, là, vous partez avec un sacré avantage. Si vous ne l'avez pas, eh bien, ça peut s'acquérir. Ben, ça peut s'acquérir parce que la confiance est une vertu. Hein. Vous savez, la confiance est une vertu. Vous vous rappelez la définition de la vertu, hein, c'est disposition permanente acquise par la répétition des actes. C'est ça la définition de la vertu. Donc, à force de poser des actes de confiance, ben, je finis par avoir confiance. De même, à force de faire des gammes au piano, ben, je finis par être virtuose. Ben, parfois. Pas tout le temps. Oui. Disposition permanente acquise par la répétition des actes. Hein? C'est ce qu'on appelle une deuxième nature aussi, la vertu, une deuxième nature. Disposition permanente acquise par la répétition des actes. C'est-à-dire, bon voilà, c'est en forgeant qu'on devient un forgeron, c'est le dicton populaire, c'est exactement ça. Et donc en faisant confiance, qu'on devient confiant. Et puis que, vous savez, je crois qu'il y a très peu de choses innées en nous. Ce qui est inné, ce qui est strictement lié au corps, c'est-à-dire et au corps à la survie du corps. C'est-à-dire inné, c'est où on n'a pas besoin d'un choix. C'est sûr que respirer, s'il fallait penser à respirer en permanence, ça pourrait être compliqué, quoi. La reproduction des cellules, par exemple, bon, ben, c'est la digestion, ça se fait. Non, la digestion, ça se fait. Mais en revanche, manger, ça, c'est un acte volontaire. Mais il y a, sauf les actes strictement liés à la survie du corps qui sont involontaires, parce que juste parce que on a aussi le droit de dormir. Donc du coup, mais tout est de l'ordre du volontaire. Tout est de l'ordre du coup de l'acquis. Et donc de la répétition des actes. L'éducation, c'est sur éduquer, c'est répéter. C'est pour ça que c'est épuisant d'éduquer parce que c'est répéter. Et on sait bien, c'est répéter la même chose bien souvent. Donc et puis bon, voilà, c'est comme ça. Mais en même temps, c'est aussi une grande satisfaction de pouvoir aider un jeune, un enfant, un jeune à se construire comme homme, comme femme. Bon, hop. Ensuite, donc la réponse à ces fidélités, à ces difficultés. Donc la confiance, la miséricorde. Pourquoi c'est important la miséricorde pour l'engagement? Parce que si je vois que, ben, d'une manière ou d'une autre, je n'ai pas été fidèle à ces engagements d'amitié, je n'ai pas été fidèle à... On sait bien qu'on a beaucoup de misère dans notre cœur, à ces engagements d'amour aussi, où on a joué avec l'autre, etc., etc. J'ai besoin d'un lieu où je sente le pardon du Seigneur. Où je sens que quelqu'un me dit « je te pardonne ». L'avantage, on dit « oui, je me confesse avec Dieu ». Moi, très bien, mais tu entends jamais « je te pardonne ». On peut avoir des voix, mais bon, c'est en général, on n'a pas de voix. Donc, du coup, le fait d'avoir ce sacrement de réconciliation qui vous a été proposé hier soir, c'est quelque chose de précieux, parce que justement, ça permet, ça redonne une chance à l'engagement. Ça redonne une chance à la confiance. Ce n'est pas uniquement au bout de mes actes, je veux dire, comment dire. C'est pas simplement mon engagement n'est pas simplement au bout de mes forces. Je sais bien que peut-être j'ai déçu des personnes autour de moi ou je me suis déçu moi-même. D'où l'importance de recevoir cette miséricorde du Seigneur, qui nous permet d'avancer et de nous redonner, puis de rentrer dans une logique de don à nouveau. Dernière partie, c'est bon. Les fruits de l'engagement. J'allais dire, le fruit de l'engagement, c'est les fruits de l'Esprit-Saint. Moi, je fais beaucoup le lien avec ça, parce que, comme je l'ai dit, s'engager, c'est se donner et recevoir. Et l'Esprit-Saint, c'est le don du Père. C'est le don du Père manifesté, que c'est vraiment c'est le don du Père qui par le Fils nous transmet son esprit. Il remet l'esprit au moment de la passion, il remit son esprit. C'est la première Pentecôte, hein, et puis ensuite la Pentecôte où l'Esprit Saint est donné aux apôtres, etc., etc. Donc du coup les fruits. Alors c'est quoi les fruits de l'Esprit Saint? Joie, paix, amour, patience, bienveillance, fidélité, bonté, douceur et maîtrise de soi. Je répète, joie, paix, amour, patience, comme fruit de l'Esprit Saint, bienveillance, fidélité, bonté, douceur et maîtrise de soi. Ça, c'est les fruits du Saint-Esprit, c'est-à-dire... Quand le Saint-Esprit, comment est-ce qu'on voit que le Saint-Esprit agit en nous? Ben, si vous repérez dans votre vie, c'est ce que je viens de dire, c'est dans la parole de Dieu, c'est Saint Paul qui en parle. Donc, vous repérez ça. Et donc, du coup, vous dites, oui, tiens, là, je suis un peu plus patient qu'avant, par exemple. Bon, ben, c'est peut-être le Saint-Esprit qui travaille dans mon cœur, qui m'a rendu plus abandonné, plus confiant, plus remis. Bon. Les fruits de l'engagement, c'est aussi une croissance spirituelle. J'ai appris à compter avec le Seigneur, et non pas simplement sur mes forces. J'ai fait l'expérience. C'est ça. C'est de l'ordre de l'engagement, c'est de l'ordre de l'expérience. Et donc,
S'engager, c'est expérimenter quelque chose. J'ai fait l'expérience que compter sur le Seigneur m'a permis d'affronter telle difficulté, m'a permis, dans une relation amoureuse, de persévérer ou au contraire d'y mettre fin, m'a permis dans une relation professionnelle d'éclaircir des rapports qui étaient conflictuels. Dans une relation familiale, m'a permis de grandir dans le lien avec les autres, parce que c'est justement, je me suis remis au Seigneur, du coup son esprit agit en moi, donc croissance spirituelle. Et puis aussi, les fruits de l'engagement, c'est croissance humaine. Je suis allé au-delà de mes peurs. Et au fond, c'est ça qui rend heureux. C'est aller au-delà de ses peurs. Et résonne en nous cette grande parole de Jean-Paul II au commencement de son pontificat, mais vous n'étiez pas nés, pour la plupart, oui. N'ayez pas peur, et reprenez, comme on dit, n'ayez pas peur, comme disait Jean-Paul II, si ce n'est que Jean-Paul II reprenait l'Évangile. Donc du coup, ce n'ayez pas peur, je trouve que résonne aujourd'hui de façon tout à fait pertinente et a résonné depuis le temps de Jésus jusqu'à aujourd'hui, retentit justement de ne pas se laisser aller à ces peurs qui nous paralysent. Au contraire, parce que vous avez beaucoup de choses à donner, laissez-vous enthousiasmer par ce qui est beau, vrai et bon. Et c'est clair que c'est vous aussi qui ferez ce monde d'aujourd'hui et de demain. On dit souvent les jeunes c'est la richesse de demain, les jeunes c'est la richesse d'aujourd'hui, hein, et c'est l'Église d'aujourd'hui, pas seulement de demain. Et donc de découvrir que par cette capacité d'engagement, de don, il y a quelque chose qui se transforme dans le monde et quelque chose qui fait que le monde est plus lumineux et fraternel. Amen.